Chères auditrices et auditeurs, vous êtes avec Véronique sur Radio Sud, la radio du Beau Canton. Dans ce Beau Canton se déroulait la Grande Mer, il y a des millions d'années. Et qui sait, peut-être pourrait-on y trouver encore une bouteille jetée là, emplie de tout son grand mystère, dans l'humus de nos sous-bois. Voici l'émission Une bouteille à la mer, où toutes les histoires sont permises, réelles ou imaginaires. Larguons les amarres du quotidien et partons naviguer à travers l'univers du possible. Aujourd'hui, François Urbain va vous conter les solanées, les plantes des sorcières. Nous allons vous badigeonner copieusement de leurs parfums psychédéliques en présence de la Grande Alice au Pays des Merveilles et de la Belladone. Oui, rien que cela, et de vous bien sûr, les auditeurs.
Bon, je vais tenter de vous entretenir des plantes de sorcières. Elles constituent une famille qui s'appelle les solanées ou les solanacées. Bon, là-dedans, il y en a que vous connaissez bien. Hein. La patate, elle en fait partie. De même que les tomates, les poivrons, les aubergines. Mais celles qu'on appelle les plantes de sorcières, c'est plutôt la belladone, la datura, la stramoine, coppola, la mandragore, qui sont des plantes qu'on classe dans les vénéneuses, c'est-à-dire des plantes qui ont un lien avec l'homme qui les perturbe, essentiellement qui perturbe les sens de l'homme, la vue, l'ouïe. Donc autrement dit, on a des hallucinations auditives ou visuelles. Bon, c'est pas toujours un défaut, il y en a qui recherchent ces plantes-là justement pour éprouver ce genre de sensation. Je vous avais déjà parlé des rosacées. Et les rosacées, donc, c'était la première fois que je vous ai entretenu des plantes à la manière de Goethe. Les rosacées, elles font tout à la perfection. Elles sont régulières, absolument constantes, prévisibles. Alors aujourd'hui, c'est l'opposé. Les solanées, c'est l'opposé des rosacées. Ce sont des plantes qui, en quelque sorte, tentent de s'individualiser, si on n'a pas peur d'avoir un discours. Et donc, je vais choisir dans cette famille une plante parmi les plantes de sorcières, et je vais choisir la belladone. Belladone. Son nom entier, c'est Atropa belladone. Alors pourquoi belladone? Belladone, c'est belle dame. Pourquoi belle dame? Ben parce qu'à la Renaissance italienne, on trouvait que quand les femmes avaient les yeux très grands, ouverts et dilatés en fait, avec une pupille dilatée et fixe, elles étaient belles. C'est un regard qui est un peu celui de la vache, mais on peut trouver belle la vache. Et donc, ces belles dames, en fait, donc la belladone a ce nom de belle dame parce qu'on appréciait les dames à la Renaissance italienne qui avaient le regard dilaté. En fait, quand vous allez chez l'ophtalmo, chez l'oculiste, et qu'il veut voir le fond de votre œil, c'est-à-dire la partie de l'œil qui est rattachée au cerveau, eh bien, il s'arrange pour que votre œil soit comme s'il était pendant la nuit, c'est-à-dire quand il y a peu de lumière, vous devez ouvrir très grand le trou par où rentre la lumière dans votre œil, vous devez dilater pour qu'il y ait un maximum de lumière qui rentre. Eh bien, quand on vous fait un fond de neige, l'ophtalmo, il vous dit de mettre de l'atropine, atropa, belladone, de mettre de l'atropine dans votre œil pour qu'il sache plus facilement passer la barrière physique de votre œil pour voir le fond. Et puis, il ajoute aussi, quand vous prenez rendez-vous et qui c'est qui va vous faire ça, et ne retournez pas en voiture toute seule, venez avec quelqu'un parce que vous n'y verrez pas bien. On y voit trouble parce qu'on est de jour, avec de la lumière, et les yeux qui sont préparés, accommodés au noir. Résultat, la vue est très mauvaise. Mais le médecin peut voir le fond de l'œil, étant donné que le trou est agrandi, le trou par où rentre la lumière. Donc voilà pour l'appellation belle dame. C'est quand même un peu triste de se dire qu'on est belle dame quand on n'y voit plus grand chose. Mais voilà, ça plaît aux hommes, n'est-ce pas? En tout cas ceux de la Renaissance. Et alors, si je décris la plante, eh bien ce sont les plantes de cette famille, les plantes dites de sorcières, elles poussent entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que tantôt ce terrain est à l'ombre et tantôt il est à la lumière. Et d'ailleurs, en allemand, ce sont des plantes de la... Elles s'appellent les plantes de la nuit. Et en français, on les appelle solanée ou solanacée. Sol, c'est soleil. Donc c'est juste le contraire. Mais les deux sont justes. Je me souviens que à Montauban, Buzenol, vous voyez, à Montauban, il y avait beaucoup d'épicéas qui avaient poussé sur la pente où il y a le cron à Montauban, les sources pétrifiantes. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose qui poussait sous les épicéas, comme d'habitude. Et puis... il y a eu une décision de rendre de la lumière au cron pour lui permettre de s'agrandir, parce qu'il faut la lumière pour qu'une certaine algue qui pousse dans le cron puisse faire sa photosynthèse. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Simplement, on a abattu les épicéas. Et la pente s'est couverte de belladone. Autrement dit, les semences de belladone, elles étaient là depuis avant les épicéas. Et puis on a abattu les épicéas et hop, elles ont reçu la lumière et elles ont germé. C'est des plantes d'ombre et de lumière. Elles sont aussi ombre et lumière si on les regarde de plus près. Mais je vous redirai ça quand j'arriverai à la description de la fleur. C'est là qu'on les voit de nouveau ombre et lumière. Mais maintenant, j'en viens à les décrire. Elles commencent au printemps par une pousse feuillée très, très luxuriante, très forte. On a l'impression qu'on va avoir un arbre. Ces pousses drues, vert foncé, puissamment. Et ça pousse comme ça pendant, disons qu'elles ont une hauteur de 40 cm peut-être. Et puis tout à coup, paf, changement. Chaque tige, qui venait donc du sol et qui poussait comme très prometteuse, se divise. C'est un peu comme si vous aviez un tuyau d'arrosage qui est posé avec un pied verticalement, et donc si vous ouvrez grand le robinet, ben, ça va gicler en hauteur. Mais si vous mettez votre main sur le bout du tuyau, hop, ça se disperse dans toutes les directions et vous êtes mouillé. Quand on bouche la sortie, et ben, c'est un peu quelque chose comme ça qui se passe. Au lieu de continuer tout droit dans sa pousse feuillée qui a été prometteuse, elle se divise. Elle se divise en trois. Donc, jusqu'ici, on avait affaire qu'aux tiges et aux feuilles. au moment où elle se divise en trois, au moment où on met la main sur le tuyau et qu'on est éclaboussé soi-même, parce que ça gicle sur les côtés un peu partout, eh bien, à ce moment-là, c'est la première fleur qui apparaît au carrefour des trois. Et donc, il faut, je crois, envisager ce passage entre la force dru et puis la division en trois comme un changement de monde. Là, on passe dans le monde de la fleur. On quitte le monde strictement feuillé pour être dans le monde de la fleur. Alors, la fleur, comment est-ce qu'elle est ? Ben, c'est une cloche, c'est une fleur fermée. Et vous dire la couleur, eh ben, c'est difficile. C'est un peu blanc sale, un peu rose, pas tendre du tout, et même un peu violet. Ça dépend. Quand on a affaire comme ça, de manière générale, à des fleurs de couleurs bizarroïdes et indéfinissables et qui varient d'une fleur à l'autre, il faut se méfier. Il ne faut surtout pas se mettre à en avaler des morceaux sans d'abord avoir été dans une voir dans une flore. Et cette fleur, donc, en tube, pas profonde, hein, c'est des fleurs qui font quoi, 2 cm et demi de profondeur. Eh ben elle bouge. Elle ne reste pas toujours tournée de la même façon par rapport à la tige. Elle tourne autour de la tige. Elle commence par venir sous une feuille, à l'ombre de la feuille, et au fur et à mesure qu'elle mûrit, fleurit, elle se dégage de la feuille, elle se tourne et elle est directement au soleil. C'est ce que je vous annonçais, qu'elle est à la fois ombre et lumière. Et une autre caractéristique qui est très étonnante aussi, c'est que si vous mettez sur les feuilles des gommettes, hein, un petit papier collant avec un numéro, et donc en bas vous mettez sur la première feuille 1, sur la deuxième feuille 2, sur la troisième feuille 3, sur la quatrième feuille 4, et puis vous attendez, vous laissez passer le temps, et vous allez voir, par exemple, je vous avoue que je ne sais plus précisément le mouvement, donc peut-être que je vais dire que la 2 dépasse la 3, mais c'est peut-être la 1 qui dépasse la 2, je ne sais plus. Mais n'empêche, quand vous allez revenir 3 semaines après, disons, eh bien, elles n'auront plus cet ordre du bas en haut, 1, 2, 3, 4, 5, non. Il va y en avoir qui vont dépasser les autres. Par exemple, vous auriez 2, 3, 6, 5. Comment ça se fait ? Eh bien, la tige est formée de différents faisceaux. Et ces faisceaux s'individualisent, il y en a qui poussent plus vite les uns que les autres. Et si la feuille 5 était attachée à un faisceau qui pousse plus vite, eh bien elle dépasse la 6. Mais ce n'est pas aussi hasardeux que ça. Par type de solanée, on a toujours le même mouvement. Donc on peut faire un schéma, on peut prévoir quelle est la feuille qui va dépasser une autre. Et par exemple, on peut faire le schéma de la morelle noire, qui, vous savez, ce qui pousse dans les maïs, et qui vaut mieux pas donner aux cochons. Ça les rend malades. La morelle noire, elle a aussi son schéma de mouvement des fleurs, des feuilles, de comment elles se dépassent les unes les autres. Plus la solanée est toxique pour l'humain, plus la fleur est profonde, pensez à la fleur de tomate ou à la fleur de patate. Elles ne sont pas très profondes, elles sont un tout petit peu, elles ont les pétales un peu soudés au début et puis elles s'ouvrent et les pétales sont bien dissociés les uns des autres. Mais les tomates et les patates, on les mange. Les patates, on ne les mange pas crues. Hein, parce que quand elles sont crues, Il y a la solanine, qui est un poison, qui est incorporé. Alors que si vous la cuisez, ben vous jetez la solanine avec l'eau de cuisson et vous gardez la patate avec son amidon. Donc on ne mange pas normalement les pommes de terre crues. Et si vous regardez la tomate, ben, le fruit de la patate ou la tomate qui est le fruit, elles se ressemblent terriblement. La pomme de terre, ce qui nous intéresse comme culture pour notre nourriture, c'est les tubercules qui sont dans la terre. Mais elle fait un fruit, la pomme de terre. Elle fait un fruit qui ressemble à la tomate. On voit bien que c'est des plantes de la même famille. Il y a aussi le tabac dans cette famille qui lui fait des fleurs très profondes avec la nicotine. Comment comprendre que cette famille de plantes fait des poisons qu'on appelle les alcaloïdes? Donc, la nicotine ou la solanine ou l'atropine, Atropa belladone, ce sont des alcaloïdes et c'est ce qui provoque chez l'humain des troubles du sens, des sens, de la vue, de l'ouïe, des hallucinations. Et donc, comment comprendre que ces plantes produisent une plante, elle répond aux critères généraux des êtres vivants. Elles donnent et elles reçoivent. Elles reçoivent la lumière, la chaleur, les sels minéraux qui viennent de la terre, l'eau. Et elles donnent des fruits, des feuilles, qui peuvent par exemple être utiles pour notre nourriture. Et alors là, elles donnent des fruits qui vont nous empoisonner. Comment comprendre ça? Est-ce que tout à coup, c'est une famille qui fait exception à la loi du donner-recevoir? Probablement pas. C'est pas la piste de compréhension la plus... qui répond à ce principe donner-recevoir. On peut se dire que cette famille de plantes qui a des particularités très étonnantes, à la fois entre l'ombre et la lumière, donc avec des mouvements. Une plante d'habitude, elle n'a pas de mouvement, c'est l'animal qui se meut. Ici, elle, de dessous la feuille, elle quitte la feuille, la fleur quitte le dessous de la feuille et elle va se mettre au soleil. C'est un mouvement interne qu'on n'attend pas d'une plante. Et puis, ces morceaux de tige qui s'individualisent et qui poussent différemment du morceau juste à côté, du faisceau qui est dans la tige juste à côté, c'est aussi une manière de bouger, de s'individualiser. Et ces fleurs-là sont des fleurs qui durent longtemps. Elles ne sont pas éphémères. Un peu comme les orchidées, qui durent très longtemps aussi. Il y a quelque chose qui est un peu commun avec les orchidées. C'est comme si, quand cette plante passe à la floraison, elle voulait s'animaliser. Elle voulait avoir un œil. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le fruit qui vient après la fleur, juste au carrefour, là où la tige s'est divisée en trois, eh bien c'est une baie noire. Pas une baignoire. Une petite baie qui est noire. Et c'est très tentant. C'est gros comme une cerise, un petit peu plus petit qu'une cerise. et les enfants seraient bien tentés d'en manger. On raconte d'ailleurs qu'il y a des soldats de Napoléon qui se trouvaient dans les bois et qui avaient très soif. Ben, ils ont essayé les belladones. Et ils ont peut-être un peu forcé la dose. Et finalement, ils se sont tirés dessus les uns les autres. Ils étaient dans des hallucinations. Les hallucinations que donne la belladone, ben, c'est des hallucinations visuelles. Rappelez-vous, la belladone a à voir avec l'œil. C'est ce que vous mettez dans votre œil quand vous avez besoin d'avoir une analyse de votre fond de l'œil. Et si on prend les différentes plantes dites de sorcières, elles ont chacune leur spécificité dans les hallucinations. Bah, d'ailleurs, les personnes qui aiment s'adonner à ce genre d'expérience connaissent très bien les différences entre les différentes hallucinations que donnent ces plantes. Quand la fleur est venue, et puis après la fleur, le fruit, la baie noire, la plante ne s'arrête pas pour autant, hein. Par exemple, si vous prenez une tulipe, eh bien, vous avez d'abord une pousse feuillée, ces grandes feuilles allongées avec des nervures parallèles, et puis vient la fleur, et ça s'arrête, ça ne continue pas après la fleur. La même chose pour une pâquerette. Mais là, avec la belladone, ça continue. Après la fleur, on a de nouveau des feuilles. Et cette petite branche-là, où réapparaissent des feuilles, elle se divise de nouveau en trois. Au moment où elle se divise en trois, il y a une fleur, là, juste au carrefour. Et sur chacune des trois se poursuit des feuilles qui chacune se diviseront de nouveau en trois. Et à la division, il y aura une autre fleur, etc., etc. Et ça peut continuer, en fait, jusqu'au gelé. Et on arrive comme ça sur une saison, d'un printemps au gelé, à un arbuste qui fait plus ou moins 1,50 m, 2 m, dans les bois. C'est une plante des bois. Il y en a, par chez nous, en Gaume. Que dire d'autre de la belladone? La belladone n'a pas des racines qui sont particulièrement caractéristiques. Bon, elle est ancrée dans le sol. Mais par exemple, la mandragore, qui est une autre solanacée ou solanée, a des racines très, très grosses, très longues. La mandragore, elle a une sinistre réputation. Hein. Il y a la datura. La datura, qui est utilisée en Amérique latine comme plante hallucinogène.
Les intrus dans toute cette histoire, c'est bien vous, les auditeurs, avec tout le respect. Excusez, mais voilà que je reviens de ce délicieux jardin, celui d'Alice, et non, je ne vous y ai pas rencontré. Alors, Alice et moi, voici ce que nous avons décidé pour vous. Nous allons vous dicter la recette qui va bien pour ce dont vous souffrez, afin de ressusciter à vous-même et avoir à nouveau accès à la merveilleuse folie ordinaire. Un dos de cuillère de grand-mère qui tricote au coin du feu, un chapeau d'arlequin de travers posé sur sa coiffe, un zeste de regard lointain d'une adolescente en quête d'aventure qui suit un lapin blanc vêtu d'un gilet. Tombé du ciel directement dans le puits, un chouïa de genoux écorché, mi-sel, mi-poivre. Un rien de complicité des sœurs blotties l'une contre l'autre dans le grand lit et qu'il neige dehors. Cette coquille de noix et sa voile en transit dans le caniveau vers ce jardin délicieux. Une louche de ce grand vent d'été cachée derrière un éventail et qui sèche les lèvres. Une grande lampée de ce silence installée entre deux notes enchanteresses. Une théière qui chante et enchante et coule auprès du roi et de la reine. Une pensée chaude empoisonnée du souvenir des bras d'un amant devenu tout petit. La tirelire de la duchesse, de plus en plus lourde et qui teinte quand on la secoue. Les vacances d'été au bord du lac, avec les cousins et le chat qui sourit tout le temps. Et nous nous réveillons, comme Alice, au bout du voyage, dans un jardin rempli de belladone et de solanée. Nous nous réveillons dans notre bon vieux monde, mais aux côtés de la chenille qui fume un narguilé tout de même. Trinquons à la folie ordinaire.
Peignons les roses en rouge, du plus éclatant des rouges, il faut les peindre coûte que coûte sans en perdre une goutte. Peignons ces rosiers en rouge, peignons ces rosiers en rouge. Bon, 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 bon. Oh, peignons les roses en rouge et pleurons du fond du cœur ces tendres fleurs assassinées.
Ce soir seront fanées.
Oh. Seigneur, quelle douleur, pleurons ces jeunes fleurs. Ah, ah, ah. Peignons les roses en rouge, du plus éclatant des rouges.
Excusez-moi, mais pourquoi donc repeignez-vous ces fleurs?
Eh bien, la vérité, c'est que mes amis ont planté des rosiers blancs par erreur, et...
La reine les aime rouges, et sachez entre nous que si elle voit un rosier blanc, on nous tranchera le cou.
Mon Dieu!
Alors d'un pinceau tremblant, nous peignons ces rosiers blancs.
C'est affreux! Est-ce que je peux vous aider? La reine les aime rouges,
du plus éclatant des rouges. Mais que la reine ne sache pas ce que l'on dit tout bas. Mais peignons les rosiers en rouge.
Oui, peignons les roses en rouge.
Pas bleu ni turquoise,
ni couleur framboise.
Peignons les rosiers en rouge.
Eh oui, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sud. Il est à présent l'heure d'accoster sur la terre ferme du beau canton et de nous quitter jusqu'à notre prochain rendez-vous dans les bras puissants des alizés marins.